Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capi vous propose la tribune de la presse. Analyse, explications et débats autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Aujourd'hui, nous parlons de l'examen d'État. Vous savez, chaque année, des milliers de finalistes du secondaire obtiennent le diplôme d'État. Cependant, le niveau de formation des bon nombre d'entre eux laisse à désirer. Raison pour laquelle le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a suggéré la suppression pure et simple de ces épreuves qui coûtent très cher aux parents. Alors, faut-il continuer à organiser les examens pour lesquels on exige beaucoup de frais alors que les enfants ont des lacunes graves? Eh bien, nous aurons des réponses à toutes ces questions dans cette émission de la vie au quotidien avec nos invités. Nous avons sur ce plateau M. Honoré Mupindi Mondo, inspecteur principal, coordonnateur du bureau de l'inspecteur général de l'EPSP. Monsieur Honoré Mupindi, encore une fois, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Alors, la première question, ça va, parlez-nous de l'examen d'État, comment tout cela est parti, et c'est quoi l'examen d'État?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. L'examen d'État constitue un instrument d'évaluation sommative qui sanctionne la fin des études secondaires en République démocratique du Congo. Le diplôme d'État qu'il obtient lui permet d'aller à l'université ou à l'institut supérieur et il peut même déjà se lancer dans le monde du travail.
Évaluation sommative, qu'est-ce que cela veut dire?
Nous sommes en train, après un examen, après un temps de formation, l'État organise cet examen pour sanctionner la fin du cycle secondaire. C'est une évaluation qui vient constater le travail qui a été fait durant toute la durée des études secondaires, c'est-à-dire de la première année en sixième des humanités. Pendant tout ce parcours, l'élève était évalué par son école, ce que nous appelons une évaluation interne. L'examen d'État est une évaluation externe qui vient constater le niveau de la formation atteint par les candidats.
Et qu'est-ce qui avait motivé l'État à mettre en place cette évaluation qu'on appelle l'examen d'État?
Très bonne question. L'examen d'État a une vie et une histoire. Elle a été instituée par l'ordonnance 67/250 du 5 juin 1967. Avant cette date, chaque école délivrait ses diplômes. Et cette situation a créé beaucoup de désordres. Au niveau des réseaux, il y avait discrimination.
Nous avons plusieurs réseaux.
Nous avons les catholiques qui disaient qu'ils étaient les meilleurs. Les protestants et aussi disaient qu'ils étaient les meilleurs. Mmh. Et la plus grande victime, c'était l'enfant. Il y a des universités qui ne voulaient pas recevoir des diplômés venus de tels réseaux, de telles écoles, parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas bien formés. Alors, pour donner à la jeunesse les mêmes chances dans la vie, les aînés à cette époque ont eu l'ingénieuse idée d'organiser l'examen d'État.
Alors, comment expliquez-vous, M. Honoré Mupindi, aujourd'hui, de plus en plus, il y a des diplômés, on les voit en train de jubiler à la cité, ils ont 70 ou 80%, mais le niveau, cela ne reflète pas les niveaux des enfants. Il y a des lacunes très graves lorsqu'ils vont à l'université. Pour prendre l'inscription, il y a beaucoup de lacunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je dois vous dire que l'examen d'État reste le seul moyen qui nous permette de juger nos élèves. Vous nous dites que les niveaux baissent, que les diplômés d'État ne reflètent pas le pourcentage qu'ils obtiennent. Je dois vous dire, Monsieur J.R.
Jody.
Monsieur Jody, excusez-moi.
Voilà. Allez-y.
Que tout diplôme, et même le diplôme d'État, est une présomption de compétences et de connaissances. Il appartient au détenteur de ce diplôme de le prouver, soit sur le terrain professionnel, soit sur le terrain académique.
Bien, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accorder la parole à M. Jean-Marie Tintomé, promoteur du bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation. Aujourd'hui, là, on a l'impression que les parents déboursent beaucoup pour l'examen d'État, il y a beaucoup de frais à payer. Si on doit commencer depuis le début du secondaire jusqu'à la fin, les parents déboursent beaucoup, mais à la fin, pour quels résultats les enfants n'ont pas de niveau? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Merci beaucoup. Avant de répondre à votre question pertinente, je voudrais préciser que j'interviens non seulement en tant que promoteur du bac, mais aussi en tant que président de la commission des intellectuels de la paroisse de Gustave Lemba, dont cette question est en train d'être étudiée pour un prochain débat qui aura lieu à la CENCO, à la tribune d'expression populaire, et à Saint-Augustin au débat public. Je voudrais aussi relever que, tout en reconnaissant peut-être les faiblesses des examens d'État, je pense que le ministre Steve Mbikaï, en tant que membre du gouvernement, c'était un peu une indélicatesse que lui, qui est au gouvernement, relève cette question dans les médias. Il aurait dû le faire au gouvernement parce que, en tant qu'homme d'État, on ne peut pas dire certaines choses que nous, ONG, groupe de pression, avons le devoir de le dire. J'aimerais qu'il puisse prochainement ne plus commettre une pareille indélicatesse parce que ce n'est pas bon.
Mais à votre alors, niveau, en tant que ONG,
maintenant, en tant que ONG,
oui.
Le BAC a déjà relevé, il y a plusieurs années, qu'il y avait une certaine pratique qui ressemblait à un génocide intellectuel de la jeunesse congolaise par rapport aux examens d'État. Nous l'avons dit ici sur Radio Capi et d'autres milieux. Quand on imagine les frais que les parents ont payés pour la formation, pendant 15 ans, de la maternelle qui dure 3 ans, primaire 6 ans, secondaire 6 ans, 15 ans, les frais de la formation et les frais pour les examens d'État eux-mêmes. Nous nous demandons si le jeu vaut la chandelle. Est-ce que tout ce que les parents déboursent au finish, les résultats obtenus, d'abord la formation obtenue par l'enfant et la qualité de la formation, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ce n'est pas un regret? Nous souhaiterions que l'inspection suive l'évaluation de chaque année. Si les élèves sont contrôlés à la fin de chaque année scolaire, maternelle et secondaire, nous pensons que, comme cela se fait dans beaucoup d'écoles catholiques, on n'aurait pas en sixième des parvenus. Or, il se
fait des élèves sans niveau.
Dans les écoles catholiques, on suit les élèves. D'abord, on n'inscrit pas en cinquième secondaire, ça s'arrête en troisième, deuxième. Ce qui fait qu'en cinquième secondaire et sixième sont les enfants que les écoles catholiques ont suivis.
Aujourd'hui, on a des élèves qui ont du mal à s'exprimer en français. Ils ne savent même pas écrire.
Nous aimerions conseiller à l'inspection de suivre, d'obliger les écoles à bien évaluer et à ne pas admettre de nouveaux élèves après la quatrième secondaire. Ensuite, pour les frais, il y a tellement de frais qui parfois ne sont même pas officiels.
Mais certains vont même jusqu'à croire que l'examen de ces épreuves sont devenus un véritable business parce que ça permet d'avoir un peu plus d'argent.
Justement, c'est un véritable business au point que il y en a qui sont déjà connus comme des écoles 100%. Et quand vous prenez les 100% de réussite par rapport au niveau de la formation reçue, c'est médiocre. Qu'est-ce que nous proposerions? Que pour passer à l'enseignement supérieur, qu'il y ait des tests. Ainsi, on découvrira ceux qui n'ont pas le niveau d'accéder à l'enseignement supérieur et même créer des préparatoires comme il y en a dans certains instituts supérieurs et universités. De préparatoire qui serait...
Au niveau du secondaire.
De préparatoire après le secondaire.
Après le secondaire, avant d'aller...
Voilà, oui. Voilà. On passe directement à premier graduat.
Tout à fait.
On a une ou deux années de préparatoire.
Oui.
Nous aimerions, et d'abord nous sommes contents, que le ministère ait délégué un responsable officiel. C'est-à-dire, ce qu'il dit, c'est responsable.
D'accord.
Là, nous devons remercier qu'il vienne participer à ce dialogue.
D'accord.
Sur l'éducation, parce que c'est important que nous discutions avec ceux qui ont la responsabilité.
D'accord.
Voilà ce pourquoi je
reviens
le ministère de...
D'accord. On va accueillir deux auditeurs, et je reviens à vous tout à l'heure. Anissé Chimbou nous appelle des Manono, Luboya Wesley de Kanangaï. Merci à tous les internautes, vous êtes nombreux à réagir sur la page Facebook de l'émission Au Capi Service. J'espère qu'on aura le temps de tout lire. Anissé Chimbou de Manono, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent dans le monde entier.
Faut-il ou pas supprimer les épreuves de l'examen d'État? Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Ce n'est pas une solution vraiment, messieurs les journalistes. Le problème n'est pas à la suppression des différentes écoles, des épreuves. Le problème est aux écoles. Par exemple, dites-moi, messieurs les journalistes, il y a beaucoup de réseaux d'écoles. Il y a les écoles conventionnées catholiques, kimbanguistes, même de l'État. Maintenant, vous allez trouver dans une école de l'État où il n'y a même pas de formation, où le fruit de ces écoles-là, c'est-à-dire les élèves finalistes ou ceux-là qui ont obtenu les différents diplômes, les lauréats, avec beaucoup de pourcentages. Mais quand vous l'affrontez en français, qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un qui met à la place de là, l'article « les », à la place de l'article « le », il met « là ». Alors, où est-ce que nous allons aboutir avec ce système? Mais le problème en est que, maintenant, l'État doit d'abord... prendre la charge de commencer à payer peut-être les enseignants. Peut-être les enseignants vont se concentrer pour commencer à donner leur temps aux différentes préparations des leçons.
D'accord.
D'ailleurs, il y a même des professeurs qui ne préparent pas de leçons.
D'accord.
Une question que je vais poser à monsieur le secrétaire. Est-ce que l'État congolais a même beaucoup de corps qui forment des gens convenablement? C'est ma question. Merci. C'est un test que je vous demande.
Merci Luboya Wesley de Kananga. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui Daniel Nkachama, bonjour à l'invité, à tous les deux invités et aussi à des auditeurs de la radio de la paix.
Rapidement, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, je suis très content par rapport au choix du sujet, mais en fait, supprimer les exétats, c'est une expression, permettez-moi le terme sentimental du ministre de l'Enseignement supérieur, Steven Mikai, qui peut-être se serait décidé de manière un peu personnelle pour dire qu'il faut supprimer. On va supprimer pour quelles raisons? C'est ça la question que je me pose. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que le problème de la qualité de l'enseignement est relevé au Congo. La qualité de l'enseignement a été qualifiée au rabais il y a des années. Depuis 2006, je peux estimer comme cela.
Alors, quelle est votre proposition, Luboya? Rapidement, les autres attendent.
Ma proposition, c'est que supprimer les exécutants, ça ne pourrait jamais résoudre un problème dans l'enseignement. Mais le problème aujourd'hui, il faut revoir... Ce qui serait à la base, c'est en fait c'est la prise en charge de ceux qui dispensent les cours qui peuvent faire de ses élèves le meilleur ou des élites de demain. Parce que les enseignants eux-mêmes se trouvent devant une difficulté, comme on voit, ils sont mal payés. En fait, la corruption bat les cours dans les milieux scolaires, ce qui influence aussi la qualité de l'enseignement. Donc, ce que vous pouvez dire, c'est peut-être voir quelle est la situation qui bat les cours dans l'enseignement. C'est en fait la non-prise en charge, comme il se doit des enseignants, qui doivent en fait dispenser des cours et qui doivent donner des leçons qui peuvent aujourd'hui propulser le savoir-faire être de nos élèves.
Mais d'accord.
J'ai décidé pour dire qu'il faut supprimer, en fait, c'est une décision personnelle et individuelle.
Bon, ce n'est pas encore une décision, c'était juste une proposition. Merci. Maître Machaka. D'accord, merci Luboya. Maître Machaka de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour Monsieur Jody et bonjour aux deux invités de la Radio Capi, à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Voilà.
Je vous remercie Monsieur Jody de m'avoir accordé la parole. Vous savez, nous, notre gouvernement cherche toujours à soigner les conséquences au lieu d'abord de soigner les causes, Monsieur Jody. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de promoteurs des écoles, ils ouvrent les écoles dans le cadre du business et non plus dans le cadre social. Et c'est ce qui tue l'enseignement au pays, monsieur Jody. Ce que moi je peux proposer, c'est qu'avant de donner l'autorisation de fonctionnement, ou bien de signer des décrets pour une école privée, si toutes les écoles privées, monsieur Jody, c'est ce qui tue l'enseignement. Et pour ce qui est des écoles publiques, c'est non-encadrement des enseignants qui donnent cours là-bas. Et quand le ministre a proposé ça, est-ce que les niveaux baissent seulement au niveau des secondaires? Même à l'université, aujourd'hui, vous pouvez vous rencontrer avec un licencié, vous allez vous demander est-ce que ce métier réellement, il est
ou pas
habilité à être appelé licencié. Alors, il faut que notre gouvernement prenne des dispositions.
D'accord.
Aujourd'hui, avant d'abord d'octroyer l'autorisation de fonctionnement ou bien de signer les décrets, oui, il faut d'abord voir la personne qui cherche à créer l'école. Il crée cette école avec quel objectif? L'objectif de se procurer de l'argent ou bien de former la jeunesse. Mais la majorité aujourd'hui, il faut, c'est du commerce. S'il a 10 000 élèves, pour lui, il a déjà fait des calculs, bénéficie de 5 dollars par élève, il a autant d'argent. Alors notre gouvernement doit prendre des dispositions, monsieur Jody, avant de donner les autorisations de fonctionnement aux écoles.
D'accord.
Analyser d'abord la personne qui ouvre l'école. Est-ce qu'il a des niveaux, des notions de la pédagogie?
Oui. Merci,
voilà,
merci, maître.
Merci,
maître Machaka. Soyez bref, beaucoup d'autres auditeurs attendent pour intervenir. On va accueillir Jonas de Cabinda. Merci à tous les internautes. Je vois des messages qui tombent de plus en plus par rapport à ces thèmes. Je vais lire tout à l'heure quelques messages. Jonas de Cabinda, bonjour.
Oui, bonjour, merci Jody, bonjour aux invités.
Faut-il ou pas supprimer les épreuves de l'examen d'État? Quel est votre avis?
Oui, je veux dire que la suggestion du ministre Steve Mikai, c'est un aveu d'échec. L'implicite dans cette suggestion, c'est qu'il y a la démission totale de l'État. Parce que les élèves ne naissent pas déjà en sixième année. Ils commencent par quelque part. Mais notre pays ne prend pas en charge le système éducatif comme il le faut.
Quelle est votre proposition alors?
Oui, la proposition c'est que il ne faut pas supprimer les... Parce que l'examen d'État constitue... Donc c'est une épreuve, il ne faut pas supprimer. Mais il faut motiver les enseignants, prendre en charge le système éducatif, vérifier comment l'enfant est en train d'évoluer. Parce que, imaginez-vous quand l'enfant échoue dans une école, il va dans une autre école, il se fait des bulletins. Et pendant l'examen d'État dont nous parlons, les inspecteurs eux-mêmes se font corrompre. Ils font sortir des carnets d'examen d'État, ils travaillent sous des paillotes, dans des maisonnettes, ils vont donner aux enfants. Parce qu'ils ne sont pas bien payés. Bon, comment voulez-vous qu'on supprime, on attribue la faute aux enfants, alors que les enfants sont comme des feuilles. Il faut chercher le problème à la racine.
D'accord.
Oui, il faut que le passe de la racine.
Merci.
Je comprends qu'il y a beaucoup d'invités, beaucoup d'intervenants, c'est pas les problèmes.
D'accord. Merci, Jonas et Cabinda. Pierre Claver, Ntumba, nous dit il faut plutôt s'intéresser à ce qui est à la base de cette baisse des niveaux et chercher à relever au lieu de supprimer. Idriss Katapena, la décision de la suppression n'est pas tout à fait appréciable. Pensez-vous qu'en supprimant cela, il n'existerait plus d'autres méthodes pour favoriser les élèves? Non, qu'on annule pas, mais qu'on fasse le monitoring sur la prolifération des écoles qui naissent uniquement pour la distribution des diplômes. Excellence Chibangu Ernest depuis Mbujimaï, à mon avis, je pense pas qu'arrêter supprimer ces élèves serait une solution, supprimer ces épreuves serait une solution adéquate, mais plutôt continuer à renforcer les mesures de passation, par exemple en remplaçant les choix multiples par le système traditionnel. Gabriel Gabi Luendu, voilà, c'est Gabriel Luendu à Kananga. Compte tenu de la décision du ministre de l'ESU, c'est pas une décision. Pour moi, il faut pas arrêter d'organiser les examens d'État, il faut continuer à les organiser, parce que nous serons aussi des finalistes, car il ne reste pas beaucoup de jours pour que nous présentions nos épreuves. Voilà, autant de réactions. Monsieur Honoré, vous avez suivi toutes ces interventions, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Je suis très très content d'avoir écouté ses compatriotes et je me rends compte que les Congolais aiment son école, les Congolais est fier de son examen d'État, les Congolais voudraient voir son examen d'État être amélioré. Mais j'aimerais aussi dire une chose, parfois nous sommes trop pessimistes lorsque nous nous jugeons nous-mêmes. Nous sommes trop pessimistes. Quand on parle de l'enseignement, il n'y a que du noir. Tout est mauvais. Mais je vous dis, monsieur le journaliste, que dans ce pays, il y a des hommes et des femmes qui se battent encore pour que l'éducation aille de l'avant. Je vous dis qu'il y a des génies. Nous avons organisé cette année, avec Madame Raïssa, en collaboration avec le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, la Semaine de la Science.
Qui est Madame Raïssa?
Madame Raïssa est une collaboratrice qui pilote une ONG qui a pour titre Investing in People. Je ne parle pas bien anglais.
D'accord.
Investir dans l'homme. Ben oui, oui. Investir dans l'homme.
Et là, et lors de cette activité, vous avez remarqué des élèves très brillants.
Très brillants. Oui. Vous ne vous croirez pas en RDC. C'est vous dire, effectivement, je ne viens pas faire l'apologie de l'échec. Mais je voudrais que les Congolais comprennent que le pays traverse une passe difficile.
Anissa nous a dit que pour que ça change, ça s'améliore, il faut bien payer les enseignants. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Oui, c'est l'un des facteurs, mais pas l'unique. Lorsque vous payez bien les enseignants et que les écoles ne sont pas dotées de livres, pas de bibliothèque, pas de laboratoire, pas d'enseignants qualifiés, ça changerait quoi? Il faut que l'État, comme ils l'ont dit, prenne en totalité la charge de bien organiser l'école.
Monsieur Tantoumé a proposé qu'après chaque année, qu'il y ait une évaluation du niveau des élèves. Comme ça, au finish, on pourra avoir des élèves bien formés.
Effectivement, chaque année, il y a évaluation interne au niveau de chaque école. Je ne sais pas ce qu'il voudrait dire. Qu'on ait un examen d'État à la fin de chaque année scolaire pour chaque classe.
Je précise. Quand vous prenez les écoles catholiques, vous constaterez, vous ne trouverez pas un élève qui soit en cinquième incapable de bien écrire et de bien parler. Il faudrait que l'inspection, qui a le rôle d'inspecter, de contrôler, puisse visiter toutes les écoles, assister à leurs examens internes de l'école pour voir si les élèves qu'on autorise de passer d'une classe à l'autre sont capables, s'ils ont le prérequis de la deuxième secondaire avant de passer en troisième. Il n'est pas normal que tout le monde voit des enfants incapables de lire, incapables d'écrire, mais on les laisse passer d'une classe à l'autre. Le principe est devenu étudier pour comprendre, tricher et coopérer pour réussir. Et tout cela est connu, est entendu des oreilles de l'inspection. Tout le monde le sait, tout le monde le constate. Je ne crois pas que l'inspection ne voit pas cet enfant-là. Tout le monde voit. Des enfants
bon, on ferme
incapables.
L'œil d'autant plus qu'on a...
Alors, ensuite, oui. On devrait interdire, à notre humble avis, pour le bac, les inscriptions en 5e, 6e secondaire. Sauf cas de permutation des parents. On ne peut pas admettre, et d'ailleurs, les écoles catholiques n'admettent pas.
C'est un enfant qui quitte une autre école et qui vient s'inscrire en 6e année.
En 6e, 5e. Non. Normalement, si le contrôle est bien fait d'une classe à l'autre, on n'aurait pas des résidus en 6e secondaire. C'est que il y a un laisser-aller, on laisse des enfants d'une classe à l'autre. Et l'État a de bonnes écoles au niveau secondaire. Mais les écoles maternelles et primaires, les bonnes écoles sont chez les privés. Vous pouvez contrôler telles que l'école Émergence à Yolo, l'école Les Gazelles, l'école Bokeleyale. Primaires sont des meilleures écoles.
L'État... Mais Maître Machaka de Lumachi nous dit qu'il y a à boire et à manger pour ces écoles privées.
Non.
Aujourd'hui, c'est devenu des écoles business.
Non. Les écoles maternelles, primaires et mères sont chez les privés. L'État n'en a presque pas. L'État a des bonnes écoles au niveau secondaire. Ça, à notre époque, j'étais métropolitain, école publique. Mais aujourd'hui, chez l'État, je vous dis, circuler dans les communes, très peu d'écoles de l'État maintenant les primaires qui sont valables.
D'accord. Faut-il ou pas supprimer les épreuves de l'examen d'État? Merci à tous les internautes. Les messages continuent. J'en ai beaucoup. Je vais accueillir quelques auditeurs. Félicien de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, à tous les auditeurs de Radio Capi et bonjour aussi aux invités qui sont là.
On vous écoute, Félicien.
Moi, je pense qu'on ne doit pas continuer à parler de la suppression des examens d'État, parce que les examens d'État hier, ça s'appelle le bac. Ça fait des siècles que ça existe et on n'a jamais supprimé ça. Mais nous devions beaucoup plus voir tout ce qui entoure l'enseignement. Nous avons l'habitude d'avoir une mémoire courte et on n'a pas l'habitude d'avoir des repères pour dire comment est-ce qu'on a été formé avant, pour tout ce qui parlait là-bas. Vous êtes passé dans les mêmes écoles. à quel moment on a dévié, à quel moment on est tombé très bas, il faut qu'on trouve des solutions. Le problème, c'est de lutter contre les antivaleurs. Le problème, c'est de combattre la médiocrité, chercher l'excellence dans tous les domaines. Et quand le ministre trouve que ce qu'il n'est pas capable de faire, ce qu'il pourrait faire, la solution, c'est de démissionner. Nous avons, ici, chez nous, on n'a pas cette culture-là. On a vu peut-être Freddy Matungulu qui a démissionné du ministère des Finances et on l'a qualifié de quelqu'un qui n'est pas sage parce qu'on ne démissionne pas quand on a un poste comme ça parce qu'on va pour s'enrichir de toutes les façons. Bon, nous devons chercher pourquoi nous sommes arrivés là. À l'époque, quand l'examen d'État avait commencé, on ne cotisait pas pour aller donner l'argent aux inspecteurs qui viennent surveiller. Mais aujourd'hui, ça s'est fait.
Les enfants cotisent.
Oui. Quand l'examen d'État avait commencé, on ne payait pas l'argent pour organiser l'examen d'État. C'était l'État qui prenait tout en charge. Et l'enseignement lui-même, aujourd'hui, on ne donnait pas, même le travail manuel à l'école primaire, on faisait le travail. On n'allait pas donner 500 francs pour le travail manuel. Donc, beaucoup de choses, quand vous prenez le traitement d'enseignants, tout ça, c'est la médiocrité, tout ça, c'est les antivaleurs. Combattons tout cela et nous allons rentrer sur les rails. Mais quand même, quelqu'un pourrait être nommé ministre, quoi, et ça, hier, pas plus qu'hier, à l'époque de Mobutu. Vous savez que c'était pas facile. Il y avait une enquête qui se faisait autour de la personne. Mais aujourd'hui, il suffit que les notables de votre village viennent voir quelqu'un qui est proche du président de la République. C'est fini, on n'a même plus de savoir s'il est compétent, s'il est un homme qui peut voler ou qui ne peut pas voler, et c'est fini, il est nommé. Donc c'est un problème d'antivaleur, un problème de médiocrité que nous avons dans les pays et que nous devons combattre.
D'accord, merci Félicien Ngoma de Lubumbashi, bonjour.
Bonjour, je dis.
Alors, quelles sont vos propositions pour élever les...
Le problème, c'est pas de supprimer l'examen d'État.
Oui.
Moi, j'ai eu la chance d'enseigner dans une école officielle, dans une école gérée par une société, et même dans une école publique. L'expérience que j'ai tirée de ces trois types de gens qui encadrent, qui suivent l'enseignement, j'ai vu que la plus grande faiblesse, c'est dans les gens qui, c'est-à-dire dans les inspecteurs, les préfets des études et tous ces gens-là qui gèrent l'école. Dans une école officielle, mal payée, mais j'ai vu des professeurs honnêtes, des gens honnêtes et qui donnaient une très bonne formation et on faisait 100%. Dans une école payée par la société, pas moins de $700, je vous dis, pas moins de $800. Mais j'ai vu des gens vraiment dépourvus de tout sens de morale. Vous voyez les enfants, sans rien, le chef lui-même il vous oblige que vous donniez un résultat de 50 de 60%. Vous amenez un résultat de 30, 40%, vous dites que c'est ça la réalité de la classe. Il refuse, il dit, allez refaire parce que moi je serai très mal coté. Les inspecteurs qui venaient uniquement pour prendre l'argent. Je pense que c'est là où il faut pointer. Parce que l'école aujourd'hui est devenue vraiment un business. Vous allez voir les écoles 100%. Je pense que même l'invité qui est...
Les 100% s'achètent aujourd'hui. Allô?
Allô?
Oui, je disais qu'aujourd'hui, les 100% s'achètent. Il suffit de donner un peu beaucoup d'argent et puis on a 100%.
C'est ça. Vous voyez, il y a des écoles... Chez moi aussi, je vois une école qui a à peine 6 locaux. Des locaux de 3 mètres sur 7. Mais là, on organise tout. Toutes les options. Dans le temps, il y avait des écoles techniques, il y avait des écoles d'enseignement scientifique, mais aujourd'hui, c'est vraiment tout. Dans une petite école, il y a la coupe et couture, l'informatique, la mécanique, tout ça, voyez un peu. C'est ça, c'est là où il faut beaucoup pointer.
D'accord.
On ne peut pas supprimer l'examen.
Merci, Ngoma de Lubumbashi. Adrien Amouyeti, vous êtes à Lubumbashi également. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody. Bonjour aussi à nos deux invités, Monsieur Honoré et Monsieur Jean-Marie. Moi, d'abord, avant de poser ma question, j'aimerais donner une suggestion. Au lieu que l'inspection supprime ces épreuves, je suggère que l'inspection puisse juste supprimer les écoles privées qui ont pour mission d'aider n'importe qui d'avoir un diplôme d'État. Ici, comme ici chez nous à Lubumbashi, on a donc on a des écoles privées médiocres et on en a vu de toutes couleurs ici chez nous à Lubumbashi même. Alors c'est comme cette année, je connais bien un monsieur, un petit, je ne peux pas même l'appeler un petit, mais un monsieur qui avait abandonné donc ses études depuis sixième primaire. Mais cette année, cette dernière, allé juste se réfugier dans une école privée et il a eu même son diplôme. Oui. Alors ma question est de savoir comment ces élèves-là parviennent à obtenir leur diplôme en plus avec une grande distinction.
Voilà.
Donc ces élèves-là sont même ça nous épate ici chez nous à Lubumbashi. Je suis saigné juste que l'inspection puisse supprimer ces écoles-là. Là, c'est mieux. Merci vraiment.
Merci. Martin nous a écrit sur la page Facebook d'Okapi Service. Il dit le mieux serait de supprimer parce que ça ne vaut plus la peine. Les élèves n'ont plus de niveau. Moussa Baraka nous dit c'est à cause du niveau élevé des corruptions qu'on en est arrivé là, surtout dans les écoles privées. Vicky Lubaya de Lubumbashi, bonjour.
Merci, bonjour, monsieur le journaliste.
Rapidement, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Soyez bref, Vicky.
Donc, je dirais que cette décision n'est pas bonne. L'essentiel est s'attaquer au niveau des écoles primaires et secondaires et on aura une très bonne solution.
D'accord, merci. Bien, monsieur Honoré Moupindi, vous avez la parole.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec les propos de nos auditeurs. Je voudrais revenir sur les propos de mademoiselle, je suppose, qui a appelé de Lubumbashi.
Adrienne, oui.
Oui, qui parle de la corruption des inspecteurs. Loin de nous l'intention d'offrir à l'inspecteur le paradis sur un plateau d'argent sans confession. Mais je vous dis que dans ce corps d'inspecteurs, il y a des hommes honnêtes. Lorsqu'on parle de l'inspecteur aujourd'hui, il y a toujours le spectre du suivi, le spectre de l'argent récolté. Je vous assure que si cela était vrai et que cet argent parvenait aux inspecteurs, je crois que nous serions parmi les hommes plutôt les plus riches de ce pays. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a une escroquerie. Au niveau de la société, mais comme éventail, on place l'inspecteur. L'inspecteur...
Vous ne reconnaissez pas qu'il y a certains inspecteurs qui passent dans les écoles pour récolter l'argent?
Je ne peux pas dire que tous les inspecteurs sont des saints. Il y a des mauvais aussi. Mais ce qui importe, c'est la sanction. Et l'inspection générale l'a toujours fait. Le problème chez nous, c'est que nous plaignons souvent sans dénoncer, et dénoncer de manière objective. Je peux vous assurer, devant ce micro, qu'il y a des collègues inspecteurs qui ne mettent plus pied dans un centre d'examen pour avoir commis des bévues, et ils ont été sanctionnés sur le plan administratif.
Alors, Adrienne propose qu'on supprime certaines écoles privées. Qu'est-ce que vous pouvez dire?
Tout à fait. Je suis d'accord. Les écoles privées qui ne répondent pas aux normes doivent être supprimées. Parce que la loi cadre nous donne cette...
Doivent être fermées, si on peut dire.
Qu'est-ce que la loi cadre dit?
Oui.
La loi cadre dit ceci. Si un privé accepte d'ouvrir une école, il doit faire au minimum comme l'État, sinon plus que l'État. Alors, ouvrir une école pour offrir une instruction qui est en deçà de ce que l'État offre, moi je ne vois pas pourquoi cette école doit continuer d'exister.
D'accord. Monsieur Tantoumeï, vous avez suivi les différentes préoccupations des auditeurs. Ngom a même relevé qu'aujourd'hui, les 100% s'achètent. Il suffit d'avoir un peu d'argent en courant et puis on a 100% tous les ans. C'est le cas. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet?
Ce que je voudrais dire est que l'inspection devrait contrôler pendant la passation des épreuves d'examen d'État pour se rendre compte de toutes ces bévues. Et que les parents, les citoyens congolais devraient dénoncer, au besoin, apporter les preuves aux autorités de toutes ces bévues. Parce que dans ces méfaits, les responsabilités sont partagées. Il y a les parents qui n'aiment jamais que son enfant reprenne, puisqu'il a déjà payé l'argent, il faut qu'on moi dans le cas.
Même si l'enfant est joué.
Oui. Donc, il y a des parents, il y a des élèves, il y a des responsables, des pouvoirs organisés qui sont responsables. Nous proposerions que d'abord on puisse réduire les frais de participation aux examens d'État.
Et ça, ça s'élève à combien aujourd'hui ces frais de participation?
J'aimerais que le conseil principal cordon est mieux placé pour le dire. Et puis nous aimerions savoir, l'UNESCO contribue-t-elle ou pas aux frais d'examen d'État? Et pourquoi, comme il a dit, que maintenant ce sont les parents qui doivent prendre en charge les frais de surveillance? Pourquoi le gouvernement donne un budget presque très insuffisant, médiocre à l'éducation? Or, on ne peut pas être dirigeant sans avoir été formé. Il faudrait que le gouvernement puisse augmenter le budget de l'éducation. Quand nous avions étudié, comme beaucoup l'ont dit, ce n'est pas le parc qui paye les frais de contrôle. Aujourd'hui, c'est revenu presque les examens des parents. Tous les frais pris en charge par les parents. Pourquoi le gouvernement, l'État, doit minorer la prise en charge? Et les parents qui n'ont pas les moyens, leurs enfants n'étudient pas. Nous avons toujours dit que, finalement, ceux qui gèrent le pays sacrifient les enfants des indigents. Parce que leurs enfants de ceux qui gèrent le pays ne sont pas dans ces écoles-là. Quand vous alliez à l'école française, à l'école belge, où sont les enfants de certains dirigeants? Ce n'est pas le cas. Ici, le bac et l'intellectuel de Lemba interpellent le gouvernement qui ne donne pas un budget suffisant à la scolarité primaire et secondaire. Au point que, par exemple, dans la dernière passation, il y a des contrôleurs de la capitale qui ne sont pas allés à l'intérieur par manque de frais. Ceux qui sont partis jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore payés pour leurs frais d'émission.
Mais où vont tous ces frais? Parce que tout ce que les enfants payent là, c'est quand même beaucoup d'argent. Monsieur Tantoumé, je vais poser la même question à Monsieur Honoré. Le temps de recueillir les questions des trois auditeurs, Jean d'Amboche de Colosi, Jean de Puissiro et Clément de Kananga. Soyez bref dans vos interventions, s'il vous plaît. Jean d'Amboche, bonjour.
Bonjour, merci. Bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute.
Voilà. En tout cas, je suis vraiment très ravi du sujet d'aujourd'hui. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut supprimer les examens d'État et ensuite. C'est vrai, c'est une décision très délicate, mais quelque part, nous devons l'encourager vu la situation qu'on est en train de vivre, surtout ici chez nous. Nous avons un constat. Il y a une école ici chez nous à Colosi, à Nkasi, parce que tous les élèves de toutes les provinces, si il faut dire ainsi, se précipitent pour aller étudier dans cette école qui est précisément à Nkasi. Soit disant que dans cette école, il n'y a jamais eu des échecs, tout le monde réussit. Selon les suivis qu'on a fait, donc il y a une forme de corruption installée dans cette école permettant à tous ceux qui passent par cette école puissent vraiment réussir. Alors, à cela, nous nous posons trop de questions pour savoir tous les élèves qui passent par là, avec cet objectif de corrompre pour avoir leur diplôme, quel avenir pour notre pays? Voilà comment est-ce que nous sommes en train de se préoccuper vu le sujet.
Merci.
Là, nous demandons aussi, nous demandons aussi au ministre de l'Enseignement de renforcer les mesures en ce qui concerne les suivis, soit les contrôles dans les salles des examens d'État, pour permettre à ce que toutes ces pratiques puissent mettre à faire pour qu'on puisse aider nos enfants à avoir des bons résultats et s'attendre à des bons élèves. Ou soit à des bons cadres de la République.
Merci Jean d'Amboche. Merci Jean d'Amboche. Jean, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Bonjour Radio Capi et bonjour les invités.
Alors soyez bref, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Oui, quelle est la solution?
La solution n'est pas la suppression de l'examen d'État.
Oui.
Il faut que on puisse mettre fin à la libéralisation excessive des écoles. Il y a prolifération des écoles privées. Ceci pauvres, comme à la rentrée ici, vous allez voir une école qui ouvre de première année maternelle jusqu'à la sixième année secondaire. Et elle recrute tous les enfants, même ceux qui n'ont pas mérité d'être dans des classes supérieures. Ça, c'est un fait. Le deuxième effet, c'est qu'il n'y a pas une inspection pédagogique. L'inspection s'arrête seulement au contrôle. C'est fait et aussi à la récolte des frais de l'examen d'État. C'est ça aussi c'est la faiblesse de notre enseignement. Autre problème, c'est l'examen d'État est devenu vraiment une source de revenus pour l'inspection parce que il y a multiplicité de frais liés. Il y a beaucoup de fiches qui multiplient sans s'occuper vraiment de l'aspect pédagogique. Voilà ce qui met notre enseignement en rabais. Autre chose, il n'est pas aussi autorisé les élèves des écoles non agréées à participer à l'examen d'État. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ces élèves, on les incorpore dans des écoles agréées. Donc voilà un système de corruption qui se fait entre les écoles privées et l'inspection.
D'accord.
Voilà les mots qui rongent notre enseignement. Merci.
Merci, Monsieur Jean, un enseignant d'Isiro. Clément de Kananga, rapidement, bonjour. Et quelle est votre proposition pour résoudre ce problème de baisse du niveau de l'enseignement?
Bonjour, Monsieur les journalistes. Bonjour aussi à tous les deux invités de la Radio Capitale. Il est vrai que vous et moi, nous avions remarqué qu'il y a un temps, au temps jadis, ceux qui pouvaient ressortir des écoles primaires pouvaient lire librement le français, pouvaient lire leur dialecte là facilement sans problème. Mais c'est vrai quand j'ai pu remarquer qu'un enfant, moi j'ai un ami qui a sa belle soeur, elle pouvait passer d'ici là en sixième primaire. Mais je conseille l'ami, non, la belle soeur peut encore rentrer en troisième. Et aujourd'hui, cette année, elle est montée en cinquième, en quatrième plutôt. Mais je vous dis, mon cher, la belle soeur ne sait pas lire les tulubes ici, même pour écrire son nom. Elle a maîtrisé les 26 lettres d'alphabet ici. Mais pour les relier, écrire papa, soit rose, soit badoufou, c'est tout un problème, je vous dis, un problème trop sérieux, un problème très grave. L'ami m'a dit, mon frère, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit non. Mais selon le remarque, j'ai pu remarquer que, voyez-vous, les grands messieurs, moi j'ai quelqu'un, un enseignant de l'école primaire, qui a enseigné mon papa à moi en deuxième primaire. Il m'a enseigné moi aussi en deuxième primaire là. Jusqu'à maintenant, moi j'ai fini l'université, mais je vois le papa là continuer toujours à enseigner. C'est-à-dire, ce sont les enseignants qui n'ont pas encore la maîtrise de classe, soit pour contrôler les enfants, puisque vous voyez les enfants dans les salles de classe, oui. Les filles en train de se maquiller, en train de se mettre la poudre, les garçons qui sont devenus aujourd'hui stars, en train de frapper la musique en classe, et puis l'enseignant incapable de contrôler la salle. Et voyez-vous cette distance-là. C'est-à-dire les enfants montent des classes sans pour autant bénéficier de matière. L'enseignant qui dit non, laissez-les aller mourir dans un autre camp. Comment ne pas freiner l'enfant ici pour qu'il les reprenne? Toi qui dis que non, laissez-les, nous pouvons les laisser aller mourir dans un autre camp. C'est vraiment bizarre. Mais voyez-vous, je pensais là-bas. Un enfant, moi j'ai connu quelqu'un qui a évolué avec moi, il ne sait pas défendre vraiment ce qu'il a écrit. Il a écrit les histoires, mais pour les lire, c'est tout un problème à l'université. Oui. Tout un problème.
D'accord.
Mais je dis, mais comment il a eu le diplôme? Il me parle d'autres qui me disent, non, voyez-vous, il y a un ami ici qui était en quatrième des humanités. Mais à un moment là, son papa a plaidé, comme il collaborait très bien avec le préfet, il a inscrit son nom là-bas, il est parti présenter les résultats. Alors comme il a eu le diplôme, il est rentré encore là-bas, il est passé en quatrième, cinquième, sixième, il n'a pas été. Voyez-vous des histoires pareilles? C'est-à-dire nous laisser aller, mais nous contrôlons vraiment les enseignants qu'on a. Si on disait que non, il fallait supprimer, on peut supprimer bien sûr. Cette décision-là est bonne. Mais ceux qui sont déjà informés là, qui n'ont pas encore de matière.
Merci Clément.
Merci Clément. Les écoles aussi, je le vois en train de monter avec les grosses mallettes comme des professeurs à Lisbonne.
Merci Samuel Agande nous dit ceci. Il faut savoir d'où viennent les résultats et qui corrige ces examens car les mêmes causes produisent les mêmes effets. Agande Samuel, depuis Numbi au sud Kivu. Jean Cole nous dit le ministre a raison, mais ce n'est pas ce n'est pas la seule solution. Nzenzu Feli nous dit depuis il est en Bujimaï, pas question de supprimer les examens d'État, mais on doit renforcer certaines mesures d'enseignement et faire appel à l'ancien système tout en supprimant les soi-disant choix multiples. Monsieur Honoré, quels sont les frais que les parents payent pour la participation aux épreuves des examens d'État?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même répondre à notre ami qui est appelé, je pense, d'Isiro ou de Kananga, qui déplore le manque d'inspection pédagogique dans les écoles.
Les inspecteurs viennent seulement pour récolter l'argent. Leur seule préoccupation, c'est l'argent.
Voilà, ça c'est l'image qui nous est collée aujourd'hui. L'inspecteur égale collecteur d'argent dans les écoles. Je peux vous dire, la main sur le cœur, que s'il y a encore un service de l'État qui se dépasse, qui remplit sa mission dans des conditions difficiles, c'est l'inspecteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Lors de la session passée à Boussou-Jano, dans la Mongala, le premier jour de l'examen, le chef de centre a été battu à mort par les élèves, les candidats.
Pourquoi ?
Je vais vous le dire, et par les habitants de cette localité. Pourquoi ? Parce que à la fin du temps réglementaire, l'examen durait 2 heures. À la fin de 2 heures, aucun élève ne remettait sa copie. En tant que père de famille, il a accordé 1 heure supplémentaire pour permettre à tous les élèves de finir leur épreuve. Au bout de l'heure, de la 3e heure, aucun élève ne remettait sa copie. Il s'est dit, mais c'est pas normal. Il a demandé aux surveillants de récupérer les copies. Les élèves, les candidats finalistes se sont rués sur les chefs de centre. Les villageois s'en sont mêlés.
Pourquoi ? Parce qu'ils attendaient les moments favorables pour tricher.
Voilà.
Sûrement, il y a des gens dehors qui avaient déjà les réponses.
Et c'est ça. Nous avons l'impression que la société a démissionné. On laisse le poids de l'examen d'État aux seules épaules de l'inspecteur. L'inspecteur seul ne peut rien faire. Lorsque les parents sont complices.
Les enfants peuvent se cotiser.
Monsieur Jody,
l'argent, au lieu de surveiller les enfants, ils surveillent plutôt les autorités et laissent les enfants collaborer.
Monsieur Jody, je vous assure que c'est un problème national, et je dirais même que c'est un fléau. Il faudrait que les parents soient moralisés. Il faudrait que les élèves eux-mêmes soient moralisés. Combien de fois on nous dit, voilà, on est en train de se cotiser là-bas. Vous descendez sur terrain, vous interviewez les élèves, ils refusent. Ici chez nous, on a demandé des frais tels que fixés par l'État. Alors quelqu'un qui fait cette
Mais certains disent que l'État fait du business, on demande beaucoup plus de frais alors que les enfants n'ont pas de niveau. C'est devenu un business pour certains qui s'en tirent avec beaucoup d'argent.
Ça n'engage que ceux-là. Ce que je peux vous dire est que l'inspection fait un effort pour amortir le choc.
D'accord. Monsieur Tantoumé, je reviens à vous tout à l'heure. Monsieur Tantoumé, vous avez la parole.
Oui.
Par rapport à toutes ces préoccupations, les frais, les inspecteurs qui viennent collecter l'argent, les parents payent beaucoup, c'est devenu vraiment un véritable business. D'après certains auditeurs.
Oui, c'est devenu un véritable business. Au point que l'enfant diplômé d'État a l'illusion d'être formé alors qu'il n'en est pas. Aujourd'hui, sur 100 diplômés d'État, combien sont capables d'exercer un travail de leur formation ou de passer en premier graduat ? C'est pourquoi nous parlons du génocide intellectuel. C'est-à-dire, ils sont tués intellectuellement, ils sont là nombreux, des chômeurs incapables. Nous demanderions à l'EPSP de passer même un concours à tous ces élèves diplômés d'État pour voir combien ont le niveau. Si on réunissait dans chaque commune les diplômés d'État dans une salle, on verrait qu'il n'y a pas plus de 30% qui ont le niveau requis. Qu'on cesse de donner des diplômes d'État à ceux qui ne le méritent pas.
Alors pour terminer, vous avez proposé qu'il y ait une évaluation à la fin de chaque année scolaire.
Oui.
Et qu'il y ait une sorte de préparatoire avant passer à l'université.
D'une classe à l'autre, quand l'inspection s'assure que réellement les élèves qui sont passés d'une classe à l'autre sont capables, ils ont le prérequis. Et qu'à la fin des humanités, pour l'université, que chaque université organise d'une part, un test d'admission et une année préparatoire pour nettoyer, pour tamiser, afin que ceux qui passent la première année de graduat soient des élèves capables. Ainsi, ceux qui leur ont donné des diplômes, alors qu'ils ne les méritent pas, vont eux-mêmes regretter. Tout le monde verra que ça ne sert à rien de donner des papiers à quelqu'un dont le contenu de la tête n'est pas responsable. C'est ça qui est dommage. Beaucoup de diplômés aujourd'hui, ils sont nombreux, maintenant, incapables.
Comment récupérer ces diplômés incapables qui ont des lacunes graves? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ce qu'il faut faire,
oui,
sans vergogne, accepter qu'on leur donne des cours, des formations après leurs années du secondaire. On ne doit pas avoir honte. Mieux vaut les former, et encore que ce n'est pas facile. Parce que quand on arrive en sixième, qu'on n'a pas le niveau de la sixième primaire, il y a des élèves de sixième secondaire qui sont moins que les meilleurs élèves de l'émergence de Bokeleyale et d'autres de bonnes écoles.
D'accord, merci. Monsieur Jean-Marie Tatoumé, je rappelle que vous êtes promoteur du BAC, Bureau d'Action et d'Éveil culturel à l'éducation. Nous disons également merci à Monsieur Honoré Mupindi Mondo, inspecteur principal, coordonnateur du Bureau de l'inspecteur général de l'EPSP. On n'a plus beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses à dire. On aura peut-être une autre occasion, on va revenir là-dessus prochainement. Merci.
Nécessairement.
Voilà. Nécessairement. Et c'est...